d'être là ce soir. Donc, je remercie aussi Cécile Tréfort, directrice d'une des écoles doctorales. J'arrive pas à retenir le nom de toutes les écoles doctorales de Poitiers, d'être toujours présente aux différentes conférences, soit celle du CESCM ou celle de l'école doctorale. Donc, je vous présente Monsieur Ludovic Tournès, qui intervient ce soir sur les fondations américaines et l'enseignement supérieur français 1918-1970. Je vous avais demandé en fait de faire une conférence sur la philanthropie. Vous m'avez proposé ce titre-là et je trouve très intéressant qu'on parle dans nos séminaires. Et d'ailleurs, il faudra y songer aussi de parler une autre fois des universités françaises, parce que je ne sais pas si l'histoire de l'université est un champ de recherche, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet. Et quand on parle pas mal à la radio, etc., des universités, des problèmes d'université, mais le contextualiser d'un point de vue historique, c'est très très important. Ici, on est dans la deuxième ville universitaire de France, se créée après Montpellier, c'est ça, une des plus anciennes universités de France. Et c'est un sujet absolument passionnant et qui est peut-être un sujet anglo-saxon, ou c'est peut-être une approche anglo-saxonne. Alors, quid du champ, justement, de cette histoire des sciences de l'homme, une histoire des universités qui ne doit pas disparaître. On pense aussi, on parlera peut-être de toutes ces archives qui n'existent plus, hein, enfin, qui ont disparu dans certaines universités, qui demande à presque des étudiants fassent des recherches, etc., sur l'histoire de l'université. Je sais qu'il y a des gens très motivés ici dans la salle et qui gardent bien leur patrimoine aussi. Ludovic Tournès, vous êtes professeur d'histoire des relations internationales à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez vous êtes très,
polyvalent.
Polyvalent, puisque vous travaillez, excusez-moi, je perds là, vous avez travaillé, vous m'avez dit, ne citer que les deux dernières parutions, mais je trouve ça bien de dire que vous avez travaillé sur l'histoire du jazz, vous avez sorti un livre aux éditions Fayard en 1999, et vous travaillez aussi, vous avez sorti aussi un guide qui s'appelle L'informatique pour les historiens. Alors, historiens, achetez ce guide aux éditions Belin, qui est paru en 2005, et du phonographe au MP3, Histoire de la musique enregistrée aux éditions Autrement en 2008. Donc, c'est une belle production éditoriale. Et donc, les deux thèmes, les deux titres qui correspondent à notre conférence de ce soir, c'est L'argent et l'influence, les fondations américaines et leur réseau européen aux éditions Autrement en 2010. Et un livre à paraître en mars, c'est cela, Sciences de l'homme et politique, les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle, édition des classiques Garnier 2011, donc mars 2011. Donc, merci beaucoup d'être venu chez nous et nous vous écoutons avec plaisir. Merci.
Merci. Oui, alors, pour commencer et répondre rapidement à votre question, c'est vrai que le champ de recherche sur l'histoire des universités est encore relativement peu développé en France, mais disons que ça vient, et je crois que d'ici quelques années, il y aura pas mal de choses sur la question. Alors, pour en venir au sujet dont je vais vous entretenir ce soir, je vais en fait déborder un peu des cadres de votre thème sur l'histoire des sciences de l'homme. En fait, je vais traiter de l'ensemble des actions des fondations américaines dans l'enseignement supérieur français, donc y compris dans le domaine des sciences biomédicales, parce que tout ça fait un tout, et en fait, d'ailleurs, c'est un des problèmes auxquels je me suis attaqué, qui est un petit peu tronçonné par les historiens de la philanthropie, chacun étant dans un secteur, la médecine, la biologie, les sciences sociales, etc. Bon, moi, j'ai essayé de traiter tout, ça a été un gros travail d'ailleurs. Donc voilà, fondation américaine et enseignement supérieur français. Sujet d'actualité, effectivement, vous l'avez dit, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais évidemment, on est dans un contexte d'évolution radicale de l'enseignement supérieur actuel en France comme en Europe, qui pose tout un tas de problèmes sur lesquels on va passer temps, parce que sans ça, je ne ferai pas ma conférence, mais en particulier un que j'aborderai, qui est celui du rapport entre financement public et financement privé. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles c'est un sujet d'actualité. Et puis la deuxième raison, c'est que il traite de la question de l'influence américaine dans le monde, problème qui traverse l'ensemble du siècle, pas seulement dans l'enseignement supérieur, bien entendu, mais l'enseignement supérieur en est un terrain d'analyse extrêmement intéressant et pratiquement pas défriché d'ailleurs par les historiens de l'américanisation. Donc en fait, en guise d'introduction, je voudrais commencer par quelques remarques sur ces questions d'américanisation, parce que la perspective dans laquelle j'ai analysé la question implique quand même quelques explications par rapport aux travaux classiques qui sont faits sur l'américanisation. En gros, hein, la plupart des recherches qui ont été menées par les historiens sur la question de l'américanisation sont menées dans une perspective diffusionniste qui finalement envisage largement la culture américaine de façon naturalisée, comme une totalité cohérente construite à l'intérieur des frontières américaines et ensuite exportée de manière un peu unilatérale. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, la plupart de ces travaux portent sur la réception de phénomènes américains, mais sans tellement voir ce qui se passe aux États-Unis. Pour aller rapidement, moi j'ai adopté une perspective différente qui est beaucoup plus circulatoire et qui vise en fait à rompre avec le couple émetteur-récepteur, d'un côté les États-Unis émetteurs actifs et de l'autre côté les autres pays, les cultures nationales récepteurs ou réceptrices passives. Et puis le couple diffusion-réception, donc pour analyser, disons, plutôt des dynamiques respectives des deux partenaires qui sont en fait à la fois et en même temps émetteurs et récepteurs, même si j'aurai l'occasion de développer seulement une partie de ça aujourd'hui. Donc il y a, je crois, un changement de perspective à opérer si on veut vraiment analyser ces questions-là, parce que le terme américanisation, en fait, est un terme piège. Et donc il faut le prendre autrement. En particulier, il faut prendre en compte énormément la dimension proprement américaine du phénomène et considérer que finalement le phénomène d'américanisation, quand il se déroule non pas consécutivement à la formation de ce qui pourrait être une culture américaine à l'intérieur des frontières américaines, mais se déroule, s'exporte en même temps qu'il se construit à l'intérieur de frontières américaines. Et en fait, la projection internationale de la culture américaine, finalement, contribue aussi à sa formation à l'intérieur des frontières américaines. Donc quand je parle de perspective circulatoire, c'est de ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas envisager les choses comme une diffusion à sens unique, ce qui est évidemment un peu trop caricatural. Et donc finalement, les phénomènes d'américanisation sont très souvent des phénomènes de coproduction en fait, qui se déroulent dans les milieux nationaux qu'on considère habituellement comme des récepteurs. J'essaierai de vous donner quelques illustrations de ça tout à l'heure. Et d'autre part, je crois que c'est extrêmement important quand on parle d'américanisation de prendre en compte les dynamiques locales, y compris avant l'arrivée de la culture américaine. Parce que c'est vrai que très souvent, on s'intéresse à la réception en considérant finalement les cultures nationales uniquement comme des réceptrices, comme émettant des réponses par rapport à une sollicitation d'origine américaine. Mais finalement, les dynamiques antérieures au contact sont extrêmement peu prises en compte, ce qui fait que du coup, ça donne souvent des visions caricaturales, soit en termes de modernisation unilatérale, autrement dit, il ne se passait rien avant les Américains, puis ils arrivent et paf, ça y est, on modernise tout, ou au contraire, il y a la thématique de la résistance, on ne s'est pas laissé américaniser, etc. Bon, ça, évidemment, les deux perspectives sont assez simplistes et je crois qu'il faut changer d'approche pour justement essayer de voir ces phénomènes dans leur complexité. Et par ailleurs, je crois que c'est extrêmement aussi important d'analyser le contact lui-même. Parce que c'est vrai que quand on regarde les travaux sur l'américanisation, ils analysent beaucoup ce qui se passe après, mais ils analysent très peu le contact lui-même, comment ça se passe. Or, effectivement, le voir comment ça se passe pendant le temps du contact, ça permet d'éviter l'interprétation mécaniste. Bon, en gros, par exemple, pour la philanthropie, financement américain égale obligatoirement impérialisme américain. Et on verra que en fait, l'action des fondations ne se résume pas, loin de là, au financement. Il y a l'argent, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de contacts interpersonnels et de questions de réseau. Et ça, c'est tout à fait important, parce qu'on s'aperçoit tout au long de l'histoire de l'action des fondations américaines en France, mais pas seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur, qu'elles s'insèrent dans des réseaux locaux qui existent avant elles, bien plus qu'elles ne sont exportatrices unilatérales de savoir ou de pratiques d'origine américaine. Et alors, parfois, elles tentent avec succès ou avec un succès inégal, parfois c'est un échec, de se faire reconnaître finalement comme des actrices à part entière des processus qui se passent in situ, hein, dans les milieux où elles interviennent. Hein. Et donc, on n'a pas, pour résumer, une importation d'un modèle américain tout fait, mais plutôt des coproductions in situ entre des projets américains d'une part, des projets des acteurs locaux d'autre part, chacun reformulant son projet initial en fonction du dialogue qu'il a avec l'autre. Dialogue qui est souvent et d'ailleurs extrêmement tendu. On pourra peut-être y revenir. En tout cas, quand on analyse l'action des fondations en France, et c'est une des choses qui m'a le plus frappé en me penchant sur ces questions-là, c'est que finalement, on a un tissu extrêmement serré de relations interpersonnelles qui rend impossible en fait le raisonnement en termes de diffusion-réception. Et donc là, il faut évidemment prendre les choses autrement. On n'a pas des projets américains exportés clé en main grâce à une puissance financière, mais on a toute une série de négociations et de contacts qui se font sur le terrain. J'essaierai d'en donner quelques exemples. Résumer vraiment à gros traits, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, cette perspective sur l'américanisation plutôt circulatoire, quoique centré ici sur un espace national qui est la France. Ce que je voudrais dire également pour poursuivre cette introduction, c'est que finalement, l'examen de la présence de long terme des fondations américaines dans le paysage intellectuel français, parce que c'est une présence de long terme, pourrait évidemment amener à la conclusion extrêmement tentante à première vue qu'on a une américanisation du système d'enseignement supérieur. Quand vous allez voir la quantité des endroits où les fondations sont présentes, on pourrait effectivement être conduit à cette conclusion-là. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence américaine. Il y en a une, c'est absolument pas niable. Mais elle aboutit absolument pas au plaquage unilatéral d'un modèle américain. D'autant plus que ce modèle, encore une fois, est largement en construction au cours du XXe siècle. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une présence vraiment de long terme. C'est pas quelque chose qui est du pur saupoudrage. Alors je ne vais pas me livrer une introduction longue sur les fondations américaines elles-mêmes, ce qu'elles sont, quand elles naissent, etc., parce qu'il faudrait faire une conférence là-dessus. Simplement, pour signaler deux mots, d'abord que ce sont des filles du capitalisme américain, puisque ce sont des organisations qui ont été fondées par les grands capitaines d'industrie qui ont fait le capitalisme américain dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça c'est un premier point, et qui ont réinvesti une partie de leur fortune, les Rockefeller, les Carnegie, puis les Ford, etc., et puis évidemment dont les Gates aujourd'hui sont les héritiers. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'elles se lancent dans une ambitieuse politique internationale, enfin certaines d'entre elles, les plus grandes d'entre elles, dès le début du XXe siècle. Et en fait, elles interviennent dans de nombreux pays jusqu'à nos jours, en mêlant en fait indissociablement impérialisme et universalisme. Et ça, je crois que là-dessus, c'est très important aussi de se tenir à égale distance d'une interprétation irénique qui verrait dans les philanthropes des bienfaiteurs de l'humanité. C'est pas évidemment pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas non plus les méchants impérialistes qui cherchent à subvertir le monde. Donc, mais ce qui est important, je crois, c'est que dans l'action des fondations, il y a ces deux dimensions-là en même temps et indissociablement. Il y a à la fois un universalisme et un messianisme qu'il importe de prendre au sérieux, et puis il y a évidemment aussi une dimension impérialiste américaine, ça c'est absolument net. Mais les deux vont vraiment de pair. Donc c'est très difficile de les dissocier. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut encore une fois négliger ni l'une ni l'autre. Moi je me limiterai aux actions des plus grandes d'entre elles qui engagent une politique internationale et puis aux actions en France et plus particulièrement leurs actions dans le domaine de l'enseignement supérieur parce qu'elles ont aussi agi ailleurs. Et donc les trois, enfin surtout deux en fait que j'analyserai, ce sont les fondations Rockefeller et Ford. En creusant un petit peu la question de l'action de ces fondations américaines, on se rend compte d'abord de la présence très ancienne qu'elles ont dans le système d'enseignement supérieur français. Et puis on se rend compte également de la présence ancienne du diptyque financement public, financement privé, qui est en fait très présent, y compris dès l'entre-deux-guerres, dans le système d'enseignement supérieur en France. J'ajoute que ce n'est pas forcément un système qui pose problème en tant que tel. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, il ne pose pas de problème à beaucoup de gens, mais vous allez voir pourquoi. Tout dépend de la manière, évidemment, dont il est mené, et des secteurs et des périodes, et puis surtout de l'équilibre entre financement public et financement privé, bien entendu. Donc, je m'organiserai mon topo en deux parties chronologiques, l'une consacrée à l'entre-deux-guerres et l'une à l'après-45, ce qui me paraît plus simple et plus clair et qui met en fait en valeur deux choses essentielles, me semble-t-il. D'abord, c'est l'ancrage dans le long terme des actions des fondations américaines. Ça, c'est un petit peu une tarte à la crème de l'historiographie de la philanthropie, de considérer que les actions des fondations sont en général très ponctuelles. Or, ce n'est pas vrai, surtout à l'international. Elles sont capables de s'investir pendant 25-30 ans pour faire aboutir certains projets. Ça, c'est un premier point. On pourra voir aussi justement la question du changement de contexte après 1945 et la question de la guerre froide, même si en fait dans le cas français ça n'a pas tellement d'incidence. Et puis ça permet de voir aussi cette perspective chronologique la question de la construction croisée dont je parlais tout à l'heure des projets philanthropiques entre les fondations et les acteurs français. Donc à mi-chemin entre importation d'une part et puis résistance des acteurs locaux d'autre part. Sur l'entre-deux-guerres, sur la première période, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une politique des grandes fondations américaines, en particulier la Rockefeller, qui est vraiment une actrice centrale dans l'enseignement supérieur français dans l'entre-deux-guerres, pas seulement français d'ailleurs. Une politique en fait scientifique des grandes fondations et en particulier de la Rockefeller qui se déploie avec un credo qui est finalement utiliser les sciences toutes les ressources des sciences, c'est-à-dire sciences sociales et sciences de la nature, et c'est pour ça que je ne les dissocie pas en fait, dans mon exposé, parce que c'est un projet unifié de la part des fondations philanthropiques, utiliser finalement toutes les ressources des sciences pour réformer la société et pour l'organiser selon des bases rationnelles. Hein, y a une foi dans la toute-puissance de la science pour résoudre les problèmes sociaux chez les philanthropes, hein, qui est issue en fait en grande partie de des problèmes de l'industrialisation américaine dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a posé ce qu'on appelle la question sociale, c'est-à-dire les conséquences sociales de l'industrialisation, en particulier les conditions de vie dramatiques de la plupart des immigrants travaillant dans les industries américaines. Et à partir de ce moment-là, on a développé des expertises scientifiques destinées à résoudre ces problèmes sociaux, et c'est en fait à ces questions-là que se sont consacrées les fondations américaines, d'abord aux États-Unis, puis après, en fait quasiment en même temps, elles ont étendu cette ambition à l'ensemble du monde. Bon. Dans l'entre-deux-guerres, en fait, il y a trois types d'actions en France pour l'enseignement supérieur et la recherche, toutes menées essentiellement par la Fondation Rockefeller. C'est l'enseignement médical, c'est la recherche biomédicale et puis c'est les sciences sociales. Alors je les traiterai évidemment les trois l'un après l'autre, assez rapidement parce que c'est long et complexe. Pour ce qui concerne l'enseignement médical, l'arrivée en fait de la philanthropie se fait à un moment finalement extrêmement charnière pour la médecine française, qui prend en fait début du XXe siècle conscience de son déclin, dans la mesure où elle était vraiment dominante dans le monde au XIXe siècle. Mais en fait, elle n'a pas effectué vraiment le virage qui se fait à la fin du XIXe siècle, en particulier en Allemagne, avec une médecine qui est de plus en plus fondée sur la recherche scientifique. Ça, c'est très important. Et la médecine française, qui est fondée largement sur la clinique, c'est-à-dire l'examen des malades, n'a pas pris ce virage-là et donc n'a très peu développé la recherche en laboratoire. Alors, il y a un petit groupe de réformateurs qui s'agitent et qui essayent d'obtenir des pouvoirs publics, des financements pour construire des centres de recherche et unifiant la faculté de médecine, c'est-à-dire le lieu d'enseignement d'une part, et puis des laboratoires pour faire de la recherche. Il y a des débats extrêmement forts, mais très peu d'engagement des pouvoirs publics, enfin engagement difficile, avant la Première Guerre mondiale et encore plus après, parce que l'État n'a plus de sous, tout simplement. Donc finalement, la Rockefeller arrive dans ce contexte-là de forts débats et puis de pénurie financière. Elle arrive alors qu'en fait, elle-même, en même temps, elle est impliquée dans une réforme de l'enseignement médical aux États-Unis. Qu'elle finance abondamment et dans laquelle elle est une actrice tout à fait fondamentale. Réforme de l'enseignement médical qui vise justement à réunir en un seul pôle la fonction de soins qui est celle de l'hôpital, la fonction d'enseignement qui est celle de l'université et la fonction de recherche qui est celle du laboratoire, hein, d'unifier ça dans des pôles uniques, ce qui est emprunté au modèle allemand. Hein, et là, de ce point de vue-là, la Rockefeller est une réexportatrice aux États-Unis du modèle allemand qu'elle va ensuite tenter de réexporter en France. Donc là aussi, on voit que la question de l'américanisation, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a des circulations transnationales qui se passent et qui ne sont pas du tout dans le sens États-Unis-France de façon univoque. Enfin bref, ça je le laisse de côté. Ce qui est sûr, c'est que la Rockefeller joue un rôle tout à fait important dans la restructuration de l'enseignement médical aux États-Unis et qu'elle veut faire pareil dans d'autres pays, en particulier en France, avec l'idée de réorganiser finalement la médecine mondiale sur un modèle anglo-saxon, en grande partie pour faire pièce au modèle français. Et donc la Rockefeller en fait met en place une stratégie, je dirais, d'encerclement dans la mesure où elle commence par la province pour viser ensuite la tête du système qui est l'Université de Paris. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, nonobstant les détails parce que ça sera un peu long, c'est que finalement le premier financement qu'elle accorde est accordé à l'Université de Strasbourg, ce qui n'est pas un hasard puisque l'Université de Strasbourg est en fait une université allemande. Elle a été fondée sous le Reich et en fait quand l'Alsace-Lorraine redevient française en 1918, on a une Université de Strasbourg qui est une véritable enclave allemande dans le système français. Dans la mesure où elle n'est pas organisée du tout selon le même modèle que les autres universités, mais elle est organisée selon ce modèle allemand où la fusion précisément des fonctions de soins, de recherche et d'enseignement a déjà été réalisée. Et donc finalement, la Rockefeller entend l'utiliser comme tête de pont pour diffuser ce nouveau modèle en France. Et donc c'est à elle qu'elle va accorder ses premiers financements en 1925, financements importants qui vont servir non seulement à finir une clinique otorhinolaryngologique qui avait été commencée avant 1914 par le gouvernement allemand et que le gouvernement français avait refusé de terminer en 1918, pour financer également des laboratoires de recherche et puis un programme de recherche en sciences biologiques. Ensuite, elle s'intéresse à Lyon, à la faculté de médecine de Lyon. Et là, c'est très intéressant dans le cas lyonnais parce qu'on voit bien l'importance de la méthode Rockefeller qui, je dirais, se fonctionne énormément sur les contacts interpersonnels, hein, avec à la fois une stratégie de terrain des officers philanthropiques, qui sont pas les program officers philanthropiques, qui sont les gens qui mettent en œuvre les programmes des fondations et de la Rockefeller en particulier, et qui établissent un contact précoce et important avec les universitaires locaux, et je pense en particulier à Lyon, à Jean Lépine, qui est le doyen de la faculté de médecine, qui va jouer un rôle tout à fait capital, parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure assez vite avec les gens de la Rockefeller, mais Jean Lépine étant aussi quelqu'un de très bien introduit dans les milieux philanthropiques locaux, la philanthropie industrielle lyonnaise, en particulier la soirée et la famille Gillet. Lépine est également très bien introduit dans les milieux politiques lyonnais et nationaux, puisqu'en fait, il connaît très bien Édouard Herriot, qui devient ministre de l'enseignement de l'instruction publique, en 1928. Et donc, finalement, il y a tout un réseau et un dialogue qui se constitue entre les représentants de la Rockefeller, les universitaires locaux, les industriels et les milieux politiques parisiens, pour faire aboutir assez rapidement le projet de financement d'une faculté de médecine, une nouvelle faculté de médecine qui est commencée en fait, après plusieurs années de discussion, mais dont la construction commence en 1928 et se termine en 1930. Et la faculté de médecine ouvre à la rentrée 1930. Elle est financée en fait à 80% la construction par la Fondation Rockefeller. Et d'ailleurs, l'avenue sur laquelle elle est rebaptisée Avenue Rockefeller pour l'occasion. Elle s'appelle toujours comme ça. Et finalement, on a avec cette faculté de médecine qui est couplée avec l'hôpital de Grange-Blanche, aujourd'hui hôpital Édouard Herriot, finalement le premier CHU avant la lettre, 25 ans avant les réformes de 1958. Ensuite, la Rockefeller passe à la tête du système, c'est-à-dire Paris, et en 1929, en fait, elle offre, après toute une série de discussions, là aussi dont je vous passe le détail, je les ai racontées par le menu dans le bouquin qui va paraître, mais c'est extrêmement complexe parce qu'il y a toute une série de réseaux universitaires qui sont impliqués. Enfin bref, elle offre à la fin de 1929 6 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle faculté de médecine à Paris, plus 6 autres millions pour développer un pôle de recherche, ce qui est colossal. Bon, il y a des négociations extrêmement longues. Finalement, la Rockefeller finit par se prendre les pieds dans le tapis du mandarinat parisien, puis aussi des atermoiements ministériels et également le lobby des marchands de vin qui ne veut pas céder le terrain qui est pressenti pour construire la nouvelle faculté de médecine. Ce qui fait qu'en fait, en 1932, la Rockefeller annule son financement. Je ne vais pas aller plus loin dans la description de ces projets, mais simplement pour donner quelques éléments pour savoir finalement sur quoi débouche cet investissement de la Rockefeller dans l'enseignement médical dans l'entre-deux-guerres en France. D'abord, il reste aujourd'hui des bâtiments, évidemment, en particulier la faculté de médecine de Lyon, et qui constitue en fait le prototype des centres hospitaliers universitaires, finalement, une génération avant la réorganisation qu'a connue la Ve République, qui a créé les CHU. Donc, il y a cette trace concrète, si je puis dire. Il y a évidemment un engagement financier très très fort, on le voit dans le cas lyonnais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, l'engagement financier de la Fondation Rockefeller force souvent les pouvoirs publics français à s'engager eux-mêmes alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de le faire. Parce que les dons Rockefeller sont en fait conditionnés en général à des dons équivalents donnés par d'autres sources, sources privées mais aussi sources publiques. Et on voit comment dans ce processus-là, les fondations sont, enfin la Rockefeller en particulier, est une partie intégrante du processus de réorganisation de l'enseignement médical, avec évidemment ses limites. Parce que soit elle a évidemment des contacts permanents avec tous ces gens-là, mais elle n'a pas de prise vraiment sur la décision politique dont les ressorts lui échappent. Et ça se voit très très bien dans le cas de l'échec de la faculté de médecine à Paris. Donc on a en fait une organisation qui est ni à la marge ni au cœur du processus. Quand finalement il s'agit d'évaluer son rôle, c'est difficile de savoir si c'est un succès ou un échec. En tout cas, si c'est un succès ou un échec, ce n'est pas forcément le sien uniquement, parce qu'on voit bien comment elle a collaboré avec toute une partie du milieu universitaire français dans l'essai de transformer ce système d'enseignement médical. Et finalement, l'échec à le transformer, au moins dans les années 30, c'est un échec autant français qu'américain, qui est un échec à la fois des milieux universitaires, en particulier parisiens, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et puis qui est aussi l'échec d'un gouvernement français qui ne sait absolument pas ce qu'il veut en matière de politique scientifique dans les années 20 et début des années 30 sur ces points-là, ou en tout cas pas assez, et qui en plus n'a pas d'argent pour le faire. Donc tout ça pour dire que ce ratage de la faculté de médecine de Paris, il est un échec américain autant français, et donc ça serait évidemment trop comment dire, schématique de le réduire à une résistance, par exemple française, par rapport à ce qui aurait été un projet impérialiste américain. C'est plus compliqué que ça. Deuxième grand secteur d'intervention de la Fondation Rockefeller dans l'entre-deux-guerres, c'est la recherche biomédicale. Bon, et là, ça s'inscrit beaucoup plus largement dans un processus international d'organisation de la recherche qui a été en fait stimulé par la Première Guerre mondiale et qui a vu finalement les États devenir des entrepreneurs scientifiques de premier ordre. Disons que c'est une mobilisation scientifique qui a été organisée pendant la Première Guerre mondiale et qui va se poursuivre en fait pendant l'entre-deux-guerres, parce que finalement, comme dès 1918, les États commencent à préparer quasiment la guerre suivante, finalement, il n'y a pas de démobilisation scientifique, mais on continue à essayer d'organiser la science pour finalement être le plus en avance possible sur ses concurrents en matière de production de tout un tas de choses, et en particulier évidemment des armements, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir l'implication de la Fondation Rockefeller dans la mise en place de ce processus en France. Implication qui est évidemment financière, bien entendu, mais aussi implication personnelle, si je puis dire, dans la mesure où là aussi, on a tout ce phénomène de contact, de réseau et de discussion qui fait finalement de la Fondation Rockefeller une actrice à part entière du processus. Et ça, c'est évidemment très, très important. Alors, sans aller trop dans le détail, cette organisation de la science en France, elle se matérialise en particulier par la création d'une série d'institutions. Il y a la Caisse des recherches scientifiques en 1901, et puis il y a surtout la Caisse nationale des sciences en 1930, qui deviendra le CNRS en 1939. Donc là, on est dans la préhistoire, si je puis dire, du CNRS, mais c'est une période tout à fait importante parce que finalement se posent des questions majeures. Parce que à la fois il y a la question de gagner la course à la recherche scientifique par rapport aux adversaires, et en particulier l'Allemagne, bien entendu, mais il y a tout un tas d'autres questions qui se posent parce qu'on est dans une période où la recherche se professionnalise. Et donc la grande question à ce moment-là, c'est de savoir comment administrer la recherche, comment mettre en place des systèmes de financement d'administration de la recherche qui soient les plus efficaces possibles. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est évidemment la question des ressources financières. Et sachant qu'effectivement, il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État en 1918, parce qu'il faut en plus non seulement reconstruire, mais payer les pensions des anciens combattants, finalement, l'appel au financement privé sera une constante de l'université et du système de recherche français dans l'entre-deux-guerres. Appel aux capitaux privés français et américains. Hein, français, il y a des fondations comme le Rothschild, par exemple, ou Saint-Gerre-Polignac. Et pour ce qui concerne les Américains, il y a évidemment la Fondation Rockefeller. Donc, en fait, il y a toute une série d'interventions qui sont menées par la Fondation Rockefeller dans les années 20. J'en citerai juste quelques-unes. Par exemple, le financement de l'Institut Henri Poincaré, qui est finalement financé à 75% et dont les 5 premières années du fonctionnement sont quasiment intégralement financées par la Fondation Rockefeller. L'herbarium, la reconstruction de l'herbarium du Muséum d'Histoire Naturelle, Jardin des Plantes à Paris, est aussi financée par la Fondation Rockefeller. Il y a toute une série, par ailleurs, de labos, de laboratoires. En fait, si on fait la liste, ça serait vraiment trop long, mais pratiquement toutes les institutions françaises sont concernées par des financements Rockefeller à des degrés divers pendant cette période. Hein, je vous en cite quelques-uns. Entre 1925 et 1939, il y a au moins 5 universités, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse. Et puis 7 institutions dédiées à la recherche qui sont concernées par ces financements et non des moindres, puisqu'il y a l'Institut Pasteur, il y a le Collège de France, il y a l'Institut de biologie physico-chimique, il y a l'École pratique des hautes études, il y a l'Institut du radium, l'Institut Curie. L'Institut Henri Poincaré, évidemment, et le Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis, au total, on a plus d'une quarantaine de laboratoires de recherche qui sont concernés par ces financements. Au total, alors je ne vais pas vous faire le détail, mais on peut estimer le montant du financement Rockefeller à la recherche à environ 2 millions de dollars entre 1925 et 1939, ce qui est une proportion tout à fait importante. Difficile de savoir exactement quelle proportion ça représente dans l'enseignement supérieur et dans la recherche en matière biomédicale, mais c'est important. Et donc il y a une présence financière très forte, et il y a aussi finalement une contribution importante de la Fondation Rockefeller à la mise en place de techniques d'administration de la recherche, où on voit comment précisément au gré de son dialogue permanent avec les pionniers de l'organisation de la recherche scientifique en France, je pense en particulier à Jean Perrin, à André Maillère, à tous ces gens-là, Émile Borel, qui sont tous des gens à la fois des grands scientifiques reconnus, professeurs au Collège de France, voire prix Nobel pour Jean Perrin, et qui sont en même temps très bien introduits dans les milieux politiques et qui sont déjà des experts en fundraising. Hein, donc il y a finalement la constitution du modèle d'organisation de la recherche recherche en France, elle se fait dans ce contexte-là, avec une participation forte de la Rockefeller qui finalement apporte des modèles d'organisation dont elle est une des premières, enfin qu'elle est une des premières à avoir expérimenté finalement dès la fin des années 20 dans sa politique internationale. Et on voit bien qu'en fait sa politique, enfin l'organisation de la politique scientifique rockefellerienne finalement concerne quasiment tous les étages, parce qu'il y a à la fois l'étage institutionnel, c'est-à-dire financer des bâtiments, l'étage des laboratoires, financement de matériel, etc., et puis l'étage individuel avec l'attribution en particulier de bourses individuelles à des chercheurs. Donc finalement, on a toute une gamme, si je puis dire, de financement qui est expérimentée à ce moment-là en collaboration avec l'expérience Rockefeller. Et puis tout ça mène évidemment au développement de nouveaux champs de recherche. Bon là, évidemment, je vais très très vite, hein, mais on pourra y revenir dans la discussion. Mais tout ce qui concerne l'embryologie et la génétique, par exemple, a été développé en partie avec ses crédits Rockefeller, les neurosciences aussi, je pense à quelqu'un comme Alfred Fessard, par exemple, ou Clovis Vincent, dont la première chaire de neurochirurgie créée en France l'est avec des crédits Rockefeller à 50%. Et puis aussi toute une série de recherches sur le cancer, je pense en particulier à celles qui sont menées à l'Institut du Radium ou au laboratoire de synthèse atomique du Collège de France avec Frédéric Joliot-Curie qui reçoit ses financements dans la deuxième moitié des années 30. Bon, là encore, hein, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la médecine, on n'a pas non plus de rôle démiurgique qui est joué par la Rockefeller dans ce cas-là. Elle n'est pas l'importatrice d'un modèle américain, tout simplement parce que finalement, dans les années 30, le modèle américain de la recherche est un modèle qui est fondé sur le financement uniquement privé. Or, précisément, en France, on a la mise en place d'un système de financement public au cours de l'entre-deux-guerres, au grand dam d'ailleurs, non seulement un système de financement public, mais un système qui se fait avec des organismes extérieurs à l'université, parce que finalement la création du CNRS dans les années 30 se fait largement contre l'université, qui en fait structurellement n'est pas organisée pour faire de la recherche. Mais donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça serait complètement absurde d'interpréter l'action rockefellerienne dans les années 30 comme une importation d'un système américain qui fonctionne de façon complètement opposée à celui qui est en train de se former en France à l'époque. Je passe au troisième secteur d'intervention de la Rockefeller dans l'entre-deux-guerres, qui est le secteur des sciences sociales. Là aussi, secteur tout à fait important, puisque finalement, à partir du milieu des années 20, la Fondation Rockefeller devient une actrice tout à fait importante du paysage des sciences sociales françaises, qui sont en pleine restructuration à ce moment-là. L'institutionnalisation desquelles elle va jouer un rôle non négligeable, et en particulier du point de vue de l'organisation de la recherche en sciences sociales. Parce que finalement, le gros problème en fait pour le développement des sciences sociales dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'on a toute une série de nouvelles disciplines qui se sont développées, sociologie, psychologie, économie, ethnologie, etc., mais qui n'ont pas encore de lieu propre. Donc finalement, toute la question dans l'entre-deux-guerres, c'est de savoir comment institutionnaliser les sciences sociales. Est-ce qu'il faut les institutionnaliser dans des instituts privés ou au contraire, dans le cadre d'universités et en particulier en créant une faculté des sciences sociales? Là, évidemment, les problèmes commencent parce que la faculté de lettres et la faculté de droit, qui sont les deux grandes facultés à ce moment-là, dans le cadre desquelles sont organisées ces disciplines en voie de création, enfin en voie de développement, ne veulent absolument pas entendre parler d'une faculté des sciences sociales qui leur enlèverait une partie de leur territoire. Donc, c'est très compliqué. Ça, c'est la première question, de savoir comment institutionnaliser les sciences sociales. Et puis, la deuxième question, c'est comment mener des travaux de recherche, sachant que précisément, l'université n'est pas conçue pour faire de la recherche. Elle est conçue pour la collation des grades, mais elle n'est pas du tout conçue pour la production de savoir. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis, le troisième problème, évidemment, c'est la question du financement. Là aussi, problème récurrent pendant toute l'entre-deux-guerres. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'intervient la Rockefeller, avec un processus qui est très long, sur lequel vraiment je passerai très rapidement, mais j'ai analysé tout ça bien en détail. En fait, la Rockefeller entre dans le jeu au milieu des années 20, vers 1924, et entre le début de son intervention et les premiers financements en 1932, donc ils écoulent 8 ans de négociations extrêmement complexes avec les universitaires français pour savoir comment faire, quoi financer, etc., etc. En fait, on se rend compte, quand on regarde ces négociations, que finalement, on n'a pas un face-à-face franco-américain, mais une série de négociations parallèles entre différents types d'acteurs français qui négocient chacun de leur côté avec la Fondation Rockefeller. Et donc, les frontières sont évidemment pas franco-américaines, hein, parce que la Fondation Rockefeller a des projets identiques à certains acteurs français qui veulent une organisation globale des sciences sociales, et puis d'autres, au contraire, qui veulent juste organiser telle ou telle discipline, mais surtout pas faire fonctionner les sciences sociales en tant que collectivité épistémologique. Du coup, en fait, la Rockefeller est obligée d'arbitrer entre tous ces acteurs qui ne sont pas d'accord entre eux, qui se détestent d'ailleurs une bonne partie du temps. Je pense en particulier à Charles Rist et Marcel Mauss. Et en fait, là aussi, elle se prend les pieds dans le tapis et finalement, elle finance tout le monde. Bon. Donc, ce qui est un pain béni pour les organisateurs des sciences sociales, parce qu'à ce moment-là, on est en pleine rationalisation de crise. Et effectivement, les crédits qui sont accordés aux universités baissent énormément. Et donc, finalement, la Fondation Rockefeller arrive à point nommé pour financer toute une série de recherches qui sont prévues par des sociologues, des économistes, des ethnologues, etc. Et finalement, entre 1935 et 1940, la Fondation Rockefeller va être une actrice tout à fait majeure du financement des sciences sociales en finançant en fait trois grands pôles. Le premier qui est l'Institut scientifique de recherche économique et sociale de Charles Rist, qui est le premier institut d'études de la conjoncture qui a été créé en France. Le deuxième qui est le Centre d'études de politique étrangère, ancêtre de l'IFRI actuel. Qui a développé des recherches en matière de relations internationales, et puis le troisième qui est en fait le Conseil universitaire de la recherche sociale, qui est en fait un pool de différents laboratoires. Et en fait, si on prend ces trois structures-là, on pourra y revenir éventuellement tout à l'heure dans la discussion, mais si on prend ces trois structures-là, finalement, on s'aperçoit que il y a environ 700 000 dollars qui sont allés à ces trois instituts, c'est soit environ, et là pour le coup j'ai pu faire un comptage relativement précis, soit environ 16 millions de francs, c'est-à-dire en fait plus que ce que la Caisse nationale des sciences a accordé en matière de recherche en sciences sociales aux acteurs français. Elle a accordé environ 11 millions de francs. Donc en gros, entre disons 55 et 65% du financement des sciences sociales dans l'entre-deux-guerres, enfin dans la deuxième partie des années 30, est d'origine en fait américaine. Et en fait, toute une série d'enquêtes sont entreprises. Là, j'en ai fait la liste aussi complète dans mon bouquin. Tout simplement, n'aurait pas pu être entreprise si jamais il n'y avait pas eu cet argent, dans la mesure où finalement les crédits accordés par la CNS étaient essentiellement des crédits de fonctionnement et non pas des crédits de recherche. Donc voilà, effectivement, tout ça pour dire que ça serait évidemment long de mentionner tous ces travaux, mais non seulement il y a une importance financière de la participation financière de la Rockefeller dans cette recherche menée, mais également une participation au processus de professionnalisation de la recherche, parce qu'on se rend compte, quand on regarde tous ces travaux qui sont menés en sciences sociales, il y a notamment un développement des enquêtes collectives, dont on dit toujours que ça se développe après 45, mais en fait ça commence dès les années 30, et on s'aperçoit que toutes ces enquêtes collectives, je pense en particulier à une grande enquête sur le chômage qui a été lancée par l'Institut de Charles Rist en 1935, qui est une grande enquête collective qui a été financée intégralement par la Fondation Rockefeller, et c'est le vrai de toute une série d'autres. Il y a aussi des missions ethnologiques qui ont été financées, en particulier la mission Marcel Griaule en Afrique. Bref, on a tout cet accompagnement, je dirais, du processus de professionnalisation de la recherche qui est fait par la Fondation Rockefeller à ce moment-là, et puis cet accompagnement aussi de ce que j'appellerais un paradigme empirico-quantitatif dans les sciences sociales, c'est-à-dire le développement des recherches de terrain. Parce que dans les années 20, les ethnologues ne vont pas sur le terrain. Les ethnologues restent dans leur bureau. Les sociologues, pas tellement non plus. Et précisément, il y a à partir des années 30, un développement des travaux de terrain menés. Et ces travaux de terrain, ils sont appuyés précisément par les financements américains. Et puis quand je parle d'empirico-quantitatif, c'est que non seulement travaux de terrain d'une part, mais aussi travaux fondés sur la collecte de données statistiques. Hein, et ça, c'est vraiment un début de trend des années 30. Et tout ça est accompagné intégralement par les financements américains. Donc finalement, il y a un élan tout à fait important qui est donné à une mutation des sciences sociales françaises dans l'entre-deux-guerres qui va apparaître vraiment après 1945, mais dont le processus est complètement engagé, je dirais, dès le début des années 30. Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin sur cette période de l'entre-deux-guerres, parce que l'heure avance. Je vais passer à la période de l'après-45. Bon, juste en faisant un grand pas par-dessus la Deuxième Guerre mondiale, non pas que ça soit pas une période intéressante, mais c'est extrêmement complexe aussi. En tout cas, bon, c'est relativement justifié de passer par-dessus, dans la mesure où, entre 40 et 44, les fondations américaines, et la Rockefeller en particulier, quittent le territoire français. Quand je dis qu'elles quittent, c'est-à-dire qu'elles y étaient, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des officers qui font des voyages en permanence, mais la Rockefeller a un bureau parisien qui est en fait un bureau européen en France depuis 1923, hein, et donc qui est le lieu en fait où les représentants de la Rockefeller rencontrent en permanence les universitaires français et d'ailleurs européens. Donc pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, la Rockefeller quitte le territoire français. Par contre, elle garde quand même un contact avec tout le réseau de scientifiques français qu'elle s'est créé. D'abord parce qu'elle finance l'exil d'un certain nombre d'entre eux aux États-Unis et qu'effectivement, elle va se débrouiller pour leur trouver des postes dans un certain nombre d'universités américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle va continuer à entretenir des liens, ce qui fait que finalement, à la libération, elle reprend pied d'abord très vite, puisque dès le mois d'octobre 1944, elle envoie un de ses officiers en France pour faire un petit peu un état des lieux du paysage scientifique pour voir comment recommencer à intervenir. Et finalement, elle va retrouver son réseau de contacts à peu près intact par rapport à l'entre-deux-guerres. Donc elle va renouer assez rapidement tout ça. Et ça va aboutir assez vite à des nouveaux financements, et je pense en particulier dès l'automne 1945, un gros financement qui est destiné à assurer le redémarrage du CNRS, un financement de $350 000 qui est accordé à la fois à une quarantaine de laboratoires, dont la plupart d'ailleurs sont dirigés par des anciens boursiers Rockefeller qui entre-temps ont pris du galon. Et ça, c'est un point tout à fait important parce qu'effectivement, on a toute une série de gens qui étaient des jeunes chercheurs dans les années 20-30 et puis qui, brusquement, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, arrivent à des postes de responsabilité parfois très élevés et qui donc ont un effet de levier très important sur l'organisation de la recherche. Donc il y a ce financement pour le redémarrage du CNRS, donc à la fois financement pour des laboratoires et financement qui est également donné pour la tenue de colloques. Et ce financement de $350 000 répartis en $250 000 pour les labos et $100 000 pour les colloques, ce financement de colloques, il est très important parce qu'il va permettre d'organiser quand même 35 colloques entre 1946 et 1950 qui concernent beaucoup de disciplines situées à la croisée de la biologie et de la médecine. Et là, en fait, on voit bien comment, à travers ces financements-là, la Rockefeller contribue à la poursuite de la recomposition du paysage des sciences biologiques et en particulier à l'émergence et à l'institutionnalisation de la biochimie, de la biologie moléculaire, enfin de toutes les sciences biomédicales. Et d'ailleurs, tous ces colloques sont organisés par d'anciens, enfin une bonne partie par d'anciens boursiers Rockefeller. Et comme ça marche relativement bien, la Rockefeller va redonner une subvention au milieu des années 50 pour organiser encore d'autres colloques. Bon, évidemment, entre-temps, la guerre froide a éclaté. Ça induit plutôt un changement dans la stratégie mondiale de la Rockefeller, mais changement qui est en fait assez difficilement négocié par la Fondation, mais je laisse ça de côté. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'incidence sur ses financements en France. Bon, par exemple, en 1950, elle va envisager de suspendre un moment son financement à la recherche française tant qu'il y a des communistes qui sont encore à la tête du CNRS, en particulier Joliot et Tessier. Mais il le quitte assez rapidement, et non pas sous l'influence Rockefeller, mais simplement sous une décision du gouvernement français. Et en fait, par la suite, mais 3 ou 4 ans après, il y aura un renouvellement du financement Rockefeller, mais qui n'est pas lié directement à ce départ. Et en fait, on va voir dans le domaine des sciences sociales que finalement, à la fois, la Rockefeller fait attention à la présence ou à l'absence de communistes à tel ou tel endroit, mais en même temps, elle ne fait pas d'investigation systématique sur les chercheurs. D'abord parce qu'elle n'en a pas les moyens, tout simplement, et puis parce qu'en fait, elle ne le veut pas. Parce qu'elle s'est créé un réseau très important dans l'entre-deux-guerres et qu'elle n'a pas envie non plus de rompre complètement, entre guillemets, le contrat de confiance. Ça fait un peu d'artiste de dire ça, je suis désolé, mais qu'elle a établi avec les scientifiques français dans l'entre-deux-guerres. Donc elle se met à la stratégie de guerre froide, mais finalement, un peu à reculons. La Fondation Ford, elle, rentrera beaucoup plus sans complexe, avec beaucoup moins de complexe dans cette stratégie-là. Mais ça, c'est encore un autre problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant les années 50, il y a une continuité des financements Rockefeller à toute une série de laboratoires. Là aussi, ça se compte en centaines de milliers de dollars avec toute une série de labos, CNRS, Institut Pasteur, Collège de France et puis toute une série d'universités. Il n'y a pas Poitiers, mais il y a Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nancy, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que parmi les laboratoires subventionnés, il y en a qui étaient déjà dans l'entre-deux-guerres. Et là, on voit bien justement la nature de long terme des liens établis par la Fondation Rockefeller avec les universitaires français, dans la mesure où certains laboratoires ont été financés comme ça, sans discontinuer, enfin avec évidemment l'interruption de la guerre, pendant 25 ou 30 ans, et où finalement la Rockefeller participe aussi à la reproduction des dynasties universitaires, parce qu'elle va non seulement financer les laboratoires, mais elle va accorder des bourses de voyage aux chercheurs eux-mêmes, et puis ensuite à leurs élèves. Et parfois, ça se déroule sur 3 générations. Autrement dit, un patron influent dans les années 50 dans le domaine des sciences biomédicales, c'est aussi celui qui sait avoir des financements Rockefeller et qui sait avoir des bourses pour ses thésards. Donc là, il y a un effet de renforcement des hiérarchies universitaires locales par l'intervention extérieure de la philanthropie américaine, qui est tout à fait intéressant. Bon, sans compter finalement, un certain nombre d'anciens boursiers Rockefeller arrivent à des postes de responsabilité et donc ont la possibilité d'avoir un effet de levier tout à fait important sur l'organisation de la recherche. Bon, je pense en particulier à Jacques Monod, hein, qui a eu une bourse Rockefeller dans les années 30 pour aller étudier au California Institute of Technology et qui, en fait, après-guerre, devient chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, puis ensuite professeur au Collège de France, mais entre-temps chargé par le général de Gaulle de mettre en musique la nouvelle politique scientifique décidée par la DGRST en 1958 dans le domaine biomédical et où on s'aperçoit qu'effectivement, la réorganisation qui prône doit beaucoup précisément au contact qu'il a eu avec, non pas avec la recherche américaine en tant que telle, mais avec l'organisation administrative et managériale de la... Enfin, managériale, on n'emploie pas ce terme-là à l'époque, mais peu importe, de la recherche. Et effectivement, on voit d'ailleurs que dans les commissions qui organisent la politique en matière biomédicale dans la DGRST, on a finalement deux réseaux essentiels, c'est le réseau des pasteuriens d'une part et le réseau des anciens boursiers Rockefeller d'autre part, les deux d'ailleurs se recoupant en partie. Bon. Donc on voit bien comment il y a une influence au second degré, si je puis dire, avec effectivement des financements. Là, sur la DGRST, il n'y a pas de financement direct de la Rockefeller, mais il y a tous les anciens rockefelleriens qui effectivement se retrouvent pour prôner un nouveau modèle d'organisation de la recherche qui va se mettre en place à travers l'action de la DGRST. Alors, je passe à mon deuxième secteur d'intervention donc après 1945, qui est l'expertise économique. Bon. Pour comprendre pourquoi la Rockefeller intervient et ensuite la Ford dans ce domaine-là, il faut comprendre évidemment que la France est dans une situation absolument catastrophique hein, à tout niveau en 1945. On est vraiment dans un pays du tiers-monde, une France qui a déjà été affaiblie par la crise des années 30, qui est complètement détruite après 1945 avec un indice de production industrielle qui a complètement chuté, des destructions massives partout. Et donc finalement, il y a tout un travail de reconstruction à faire, et en particulier de reconstruction économique, qui est vraiment une des principales priorités du gouvernement français. Et pour opérer ce travail de reconstruction, il y a évidemment besoin de disposer d'instruments de mesure de l'activité économique pour savoir comment piloter cette reconstruction. Ça, c'est tout à fait important. Et en fait, ces instruments de mesure de l'activité économique, ils sont extrêmement peu développés en France, contrairement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, ou les États-Unis, qui finalement ont élaboré dès les années 30 des méthodes de comptabilité nationale, en particulier assez. Ça se cristallise tout ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, mais avec toute une série d'instituts qui ont travaillé sur la prévision économique, des instituts qui sont à peu près absents en France, si ce n'est l'Institut de recherche économique de Charles Rist, qui est abondamment financé dès les années 30. Mais bon, tout ça pour dire que effectivement, l'idée de la Rockefeller de financer l'expertise économique, c'est bien de contribuer au développement d'instituts d'études de la conjoncture et de travaux qui permettent de piloter la reconstruction économique d'après-guerre. Et donc les fondations, la Rockefeller d'abord et ensuite la Ford, vont financer un certain nombre d'instituts pour développer l'expertise économique, et ça jusqu'au début des années 60. Je me limiterai à les citer, parce que là aussi il y a tout un travail de mise en relation, de discussion, de négociation des projets, etc., mais on n'a pas le temps. Il y a évidemment donc l'Institut de Charles Rist qui continue après la guerre. Il y a l'Institut de sciences économiques appliquées de François Perroux, qui est un des premiers à mettre en place et à élaborer une méthode de comptabilité nationale, et pour lequel la Rockefeller lui donne des financements à la fin des années, à partir de 46-47 jusqu'au milieu des années 50. Il y a le service d'études de l'activité économique de Jean-Marcel Jeannonet, hein, à partir du milieu des années 50, qui a mené toute une série d'études sur l'économie française, hein, l'économie à la fois au niveau national, mais aussi sur la régionalisation économique. Donc tous ces travaux sont financés par la Rockefeller d'abord, et ensuite par la Ford. Et puis il y a également des travaux du Centre d'études de politique étrangère sur l'industrialisation. Bon, mais ça, je passe. Et puis également des financements, en particulier de la Fondation Ford, pour tout ce qui concerne l'enseignement de la gestion des entreprises. Là aussi, l'idée étant de former des cadres qui soient capables de gérer une entreprise, mais aussi de prévoir un petit peu l'activité économique un petit peu à l'avance. Et il y a toute une série d'organismes qui sont financés par la Rockefeller et surtout la Ford dans les années 50. Je donnerai les deux principaux, qui sont l'Institut catholique de Lille, qui développe à partir du début des années 50 une structure de formation à l'administration des entreprises. Et puis il y a l'INSEAD de Fontainebleau, hein, qui est la grande école de formation à l'administration des entreprises, qui est créée en 1960, enfin, à la fin des années 50, enfin, ça commence vraiment à fonctionner en 58-59, et que la Fondation Ford financera abondamment jusqu'en 1975. Voilà, donc il y a ce deuxième pôle d'expertise économique. Et puis le troisième pôle de financement, c'est les sciences sociales universitaires, avec là un enjeu majeur, en fait, après 1945, qui est la restructuration de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur français. Dans ce domaine-là, on voit bien la continuité entre le projet des fondations américaines et de la Rockefeller en particulier, mais dont le relais est pris par la Ford après, qui commence dans les années 30, parce que finalement, ce que fait la Rockefeller après 1945, c'est de continuer ce qu'elle avait commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire contribuer à la restructuration des sciences sociales en France. Et tout ça arrive là aussi dans un contexte où, après 1945, il y a toute une série d'acteurs, des universitaires en particulier, qui caressent aussi le projet de restructuration globale de l'enseignement supérieur, finalement voulant profiter de la situation créée par les destructions et puis la situation exceptionnelle de l'après-guerre pour finalement faire table rase, enfin, en tout cas réorganiser de fond en comble l'enseignement supérieur. Et donc finalement ces projets d'universitaires français et de la Rockefeller vont se rencontrer. Donc là aussi, toujours la problématique de l'importation ne permet pas de comprendre toute la complexité du processus. Et donc on voit bien que il y a cette coproduction qui est réalisée à la fois par la Rockefeller et par un petit groupe d'universitaires français dans ce processus. Alors là aussi, c'est un jeu extrêmement complexe avec toute une série de lignes de fracture. Les acteurs ont souvent des logiques différentes. En gros, le rôle des fondations, en fait, se voit à trois niveaux, hein, enfin dans trois secteurs principaux. D'abord, la contribution financière très importante à la naissance de la sixième section de l'école pratique des hautes études, qui est une nouvelle venue en fait dans le paysage universitaire, en marge de l'université, mais qui va y jouer un rôle majeur, bon, qui devient EHESS en 1975. Dans l'esprit des gens de la Rockefeller comme de ses concepteurs, et je pense en particulier à toute l'école des Annales, Lucien Febvre, Fernand Braudel, etc., la sixième section doit en fait servir de noyau à la création d'une faculté des sciences sociales. Et elle doit servir également de noyau au développement d'une recherche dans les sciences sociales qui n'est pas vraiment menée dans les universités, ou en tout cas de façon beaucoup plus compliquée et avec beaucoup plus de difficultés, puisqu'encore une fois, les universités ne sont pas vraiment faites pour ça. Et donc là, il y a toute une série de négociations aussi qui ont lieu entre Febvre, Braudel et puis les Américains, qui vont aboutir à des financements importants entre 1947 et 1955. Et finalement, les premiers travaux des laboratoires de la sixième section, je pense en particulier au Centre d'études sociologiques, au Centre de recherche historique, le laboratoire de Braudel, et au Centre d'études économiques, qui sont menés avec des financements Rockefeller. Et là, on a toujours la même dichotomie, c'est-à-dire que ces financements sont des financements de recherche, alors que les crédits de fonctionnement qui sont accordés par le ministère sont des crédits de fonctionnement, mais qui ne permettent pas de faire des projets. Autrement dit, la quasi-totalité des recherches qui sont entreprises par la sixième section pendant cette période le sont avec le financement américain, et elle n'aurait tout simplement pas eu lieu s'il n'avait pas été là. Alors, et en particulier, toutes les enquêtes collectives qui sont lancées sous l'égide de Braudel, qui est à ce moment-là en train de mettre en place son grand projet de toute une série d'enquêtes sur les circulations économiques internationales, il le fait grâce au financement Rockefeller. Alors, évidemment, il y a toute une série de critiques qui fusent en particulier de la part des intellectuels communistes qui accusent les fondations de subvertir l'université française et qui accusent Braudel et Febvre d'être les valets de l'impérialisme américain. Et qui sont aussi furieux de voir l'argent américain couler à flot pour la sixième section alors que l'université n'a pas d'argent. Donc ça, c'est le premier pôle de financement qui est la sixième section. Le deuxième pôle, c'est Sciences Po, la Fondation nationale des sciences politiques. Et là, on s'aperçoit effectivement que les fondations, d'abord la Rockefeller et ensuite la Ford, ont joué un rôle tout à fait important dans le développement de l'étude des relations internationales et l'étude des area studies également, traduit improprement par aire culturelle en France, mais peu importe. En particulier le CERI, le Centre d'études et de relations internationales, laboratoire de Sciences Po, et qui a été créé en fait au milieu des années 50, a des financements Rockefeller importants à partir de 1956-1957, hein, qui vont contribuer largement à en faire un centre majeur dans l'étude des relations internationales. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on est vraiment au moment où la discipline relations internationales se cristallise. Elle n'existait pas dans les années 30 vraiment en tant que telle, mais on a là la constitution d'une discipline à proprement parler qui se fait en particulier à Sciences Po, avec le soutien de la Rockefeller et qui finance également, à travers cette aide, la création d'un troisième cycle d'études qui est destiné à créer un doctorat en relations internationales, hein, alors qu'il n'y a aucune formation qui existe à ce moment-là dans le système universitaire français. Et donc là, on voit bien là aussi le rôle de levier qui est joué par l'intervention de la philanthropie américaine, qui finance d'ailleurs par ailleurs également les Area Studies à la 6e section de l'école pratique de hautes études entre 55 et 60. Et puis, dernier pôle de financement, c'est la contribution des fondations à la création de la Maison des sciences de l'homme, imaginé par Braudel au début des années 50, là aussi toujours avec l'idée d'en faire une future faculté des sciences sociales. Ça ne marchera pas, mais peu importe. En tout cas, le financement, d'abord Rockefeller et puis surtout Ford, parce que c'est la Ford qui prend le relais à partir de la fin des années 50. Là aussi, il y a toute une série de négociations dont je vous passe le détail, qui manquent de rater à plusieurs reprises. Ce qui est sûr, c'est que la Maison des sciences de l'homme ne deviendra pas la faculté des sciences sociales tant espérée par Braudel. Donc elle est en deçà en fait du projet qu'il a caressé. Mais quand même, on a la création à partir du milieu des années 60. Enfin, ça s'étage sur les années 60. En fait, elle est vraiment achevée à partir de la fin des années 60, 68, 69. Mais elle a commencé à fonctionner avant. Elle entre dans le paysage universitaire en tant qu'actrice non négligeable, d'abord parce que ça devient un centre de documentation très important, et en fait une bonne partie de la subvention Rockefeller va à la bibliothèque de la Maison des sciences de l'homme, qui est conçue comme un centre de documentation moderne. Et puis ensuite, une fois que l'immeuble de la MSH au 54 boulevard Raspail à Paris est achevé, elle va donner la fin de son financement qui va servir, lui, pour les activités de recherche, avec toute une série de programmes qui sont financés, bon, par exemple des travaux de Germaine Tillon sur le Maghreb, les travaux du Centre de sociologie européenne de Raymond Aron le sont également. Alors, après la brouille entre Aron et Bourdieu, les crédits Ford sont en fait partagés entre, d'une part, le Centre de sociologie européenne et puis le laboratoire de l'éducation et de la culture, enfin le Centre de sociologie de l'éducation et de la culture de Bourdieu, plus exactement. Et bon, il y a toute une série d'autres laboratoires qui sont financés. Bon, alors pour conclure sur cette partie, et avant de conclure sur l'ensemble de mon intervention, bon, sur cette partie. Il y a deux constatations majeures qui se dégagent pour ce qui concerne l'intervention de la philanthropie américaine après 1945 en France. La première, d'abord, c'est que l'action des fondations, donc Rockefeller et Ford, a largement contribué à l'essor de trois institutions majeures, hein, la 6e section, évidemment, la FNSP, la Fondation nationale des sciences politiques, et puis la Maison des sciences de l'homme. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que ce rôle très important n'a pas conduit pour autant à une importation en France des sciences sociales américaines. Ça, c'est tout à fait clair aussi. C'est un projet qui a incontestablement fait partie des objectifs de la Rockefeller et puis surtout de la Ford. Mais en fait, il a été assez vite rendu caduque, tout simplement parce qu'il y a une dynamique intellectuelle forte qui existe en face et qui finalement a empêché les Américains de mettre en place ce projet-là. Et en particulier, l'École des Annales, qui est une forte collectivité à la fois scientifique, personnelle et épistémologique, qui a finalement imposé son projet aux Américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a donc on est vraiment à mi-chemin là aussi entre deux interprétations qui pourraient être caricaturales, mais il est évident que les fondations américaines jouent un rôle tout à fait majeur dans la refonte du paysage intellectuel après 45, que ce soit dans les sciences dures ou dans les sciences sociales. Finalement, elles ont deux leviers qui sont particulièrement efficaces. D'abord, leur disponibilité financière qui sont très importantes et qu'elles peuvent mobiliser beaucoup plus facilement et plus rapidement que celle du gouvernement, qui a toujours des procédures administratives très lourdes. Et puis, ce que j'appellerais leur activisme relationnel ensuite, c'est-à-dire cette façon d'être en permanence en contact avec tout le monde pour être au courant de ce qui se fait et essayer de s'intégrer dans toute une série de projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réorganisation des sciences sociales ne doit absolument pas être interprétée en termes de face-à-face franco-américain et encore moins en termes d'importation. Là, effectivement, on a vraiment, avec le cas de la MSH, de la Maison des sciences de l'homme, un cas tout à fait caractéristique. Ce n'est pas un acte de résistance de Fèvre et de Braudel. Ce n'est pas non plus un acte d'importation des sciences sociales américaines. C'est plutôt un compromis entre la stratégie internationale des fondations et puis la stratégie, le projet intellectuel et scientifique de Braudel et des gens des annales derrière lui. Donc ça c'est je pense tout à fait important. Alors pour conclure de manière générale, j'ai quelques minutes encore, je pense, pour le faire. Bon, d'abord, on pourrait évidemment, et encore je vous en ai passé, hein, au vu de tous ces financements massifs qui concernent finalement énormément d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche en France, pratiquement toutes celles qui comptent. Évidemment à des degrés divers selon les périodes, bien entendu, hein, et selon les projets. Mais enfin, on pourrait évidemment être tenté de conclure que les fondations, je dirais, ont atteint leur objectif pour le meilleur ou pour le pire, selon les préférences idéologiques de chacun. Autrement dit, pour faire court, disons, on pourrait imaginer, enfin en tout cas conclure qu'elles ont réussi à convertir les élites françaises à l'atlantisme, pour garder un terme d'après 45. Mais en fait, on a évidemment, en tout cas, qu'elles ont américanisé le système d'enseignement supérieur et de recherche français. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On a une situation quand même beaucoup plus complexe sur le terrain. Mais effectivement, c'est le travail de l'analyse sur le terrain, des contacts, la façon dont il se passe, qui permet de montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, ce qui ressort en premier lieu, c'est qu'en fait, on a un caractère extrêmement problématique de l'articulation entre le projet global, mondial, des grandes fondations et son application sur le terrain. On a à la fois des fondations qui sont ni totalement désintéressées, loin de là, ni totalement impérialistes non plus. En fait, on a une action internationale qui navigue en permanence entre la volonté de dessiner un monde aux couleurs américaines et cette volonté également permanente de dépasser leur statut d'organisation américaine pour être des organisations internationales et aboutir à une réorganisation et à atteindre une dimension universelle. Ça, c'est très important. Alors, leur capacité à maintenir l'équilibre entre ces deux pôles est extrêmement inégale. Elles y réussissent mieux, en particulier pour le Rockefeller dans l'entre-deux-guerres. Elles y réussissent beaucoup moins bien pendant la guerre froide parce qu'elles sont évidemment, je dirais, leur statut d'organisation américaine, elle se replie beaucoup plus dessus, logique de guerre froide aidant, et en particulier parce qu'elle s'attache à ne jamais contredire l'intérêt national américain. Bon, cela dit, il y a quand même un problème, c'est qu'elles en ont une conception qui n'est pas forcément la même que celle du gouvernement américain, et en particulier, elles sont un peu prises entre le marteau et l'enclume, parce qu'à la fois, elles sont considérées comme impérialistes à l'étranger, mais elles ont beaucoup d'ennuis au début de la période, enfin, pendant la période McCarthyste, parce qu'elles gaspillent les dollars américains à l'étranger et parce qu'elles financent des activités subversives. Donc finalement, elles sont aussi considérées comme anti-américaines par une fraction du milieu politique américain. Donc elles ont une situation qui est assez complexe. Donc ça, c'est un point aussi. Et d'autre part, en fait, concernant l'articulation entre ce projet global et sa mise en œuvre sur le terrain, on s'aperçoit, quand on analyse leurs contacts, que finalement, elles procèdent avec beaucoup plus d'empirisme qu'on pourrait le croire au premier abord, c'est-à-dire qu'elles sont confrontées à des tas de situations locales qui fait que le systématisme de leur projet est continuellement contrecarré parce qu'elles ont en France une situation différente de l'Allemagne, de l'Angleterre et des pays d'Amérique latine, etc. Et donc elles sont continuellement obligées de s'adapter à des contextes locaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et où souvent il y a des milieux assez structurés qui se trouvent en face d'elles et qui ont aussi leur propre projet. Alors après, il y a des négociations entre les deux. En tout cas, je dirais, bien plus qu'un plan préconçu, elles ont des directions de travail générales, mais en fait, elles sont en permanence obligées de s'adapter aux réalités du terrain. Et d'une certaine façon, la dimension mondiale de leur activité, je dirais, est peut-être le meilleur rempart contre la tentation de l'impérialisme uniformisateur, dans la mesure où elles sont confrontées à tellement de situations locales différentes que finalement, elles ne peuvent pas avoir une méthode systématique. Enfin, en tout cas, une action systématique, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas dégager quand même des constantes dans leur action, et en particulier dans leur méthode. Ça, c'est très, très important. Il y a bien ce que j'appelle une philanthropic touch, hein, il y a vraiment une patte philanthropique, dont la Fondation Rockefeller est, à mon sens, la meilleure représentante, dans la mesure où on voit bien qu'à chaque fois, elle fait précéder toutes ses actions d'enquêtes systématiques, de contacts préliminaires et de coups de sonde un petit peu partout pour voir où, comment intervenir, avec qui, etc. Et puis, elle a également un choix toujours très minutieux des interlocuteurs qu'elle choisit, de préférence des gens dont elle imagine qu'ils vont être d'accord avec elle, bien entendu, mais elle ne tombe pas toujours juste. Et donc il y a toujours un travail comme ça de prospection des milieux locaux qui fait que souvent elle a une connaissance très fine des terrains locaux, et d'ailleurs c'est extraordinaire de voir les archives de la philanthropie, parce que finalement quand on travaille sur l'université française, les archives Rockefeller sont une mine bien plus intéressante que celle des archives de la série du ministère de l'instruction publique, parce que on a toutes les correspondances et on sait qui rentre contre qui aime qui déteste qui, et voilà. Donc il y a les enjeux intellectuels et scientifiques et personnels aussi, sont souvent représentés avec beaucoup plus de détails qu'on pourrait le voir dans des archives publiques françaises qui finalement souvent se limitent aux factures de chauffage et aux frais de fonctionnement. Bon. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'histoire de l'université est peu développée, parce que les archives françaises sont souvent d'un manque d'intérêt à peu près total. Et bon, je veux dire que je les ai labourés vraiment de fond en comble pour ce travail. Et en fait, il y a beaucoup de déchets. Mais il y a aussi des mines d'or, mais le problème, c'est qu'il faut les trouver. Et elles sont pas toujours. Enfin, elles finissent par être versées, mais alors il y en a beaucoup à Fontainebleau en particulier. Bon, et puis autre caractéristique de la Philanthropic Touch, c'est ce contact permanent. Hein, il y en a vraiment sur parfois 25-30 ans des relations qui d'ailleurs virent en relations personnelles parfois hein, entre les officiers en fellowship et les universitaires français. Hein, avec vraiment, c'est pas seulement, il y a pas seulement un chèque qui est donné, il y a vraiment des relations encore une fois parfois de long terme. Et en fait, justement, c'est là que c'est intéressant parce que à la fois on a cette insertion très très précise, très très forte dans les réseaux locaux, et en même temps, du fait même de cette insertion, l'action des fondations est souvent neutralisée par le fait même qu'elles se prennent les pieds dans le tapis, qu'elles maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants, et que finalement elles sont souvent conduites à privilégier un acteur au détriment d'un autre. Parfois, elles financent tout le monde, mais pas toujours. Et donc, elles se perdent parfois dans les ramifications universitaires, sans parler des ramifications administratives, dont la France a le secret, et qui finalement fait que les projets qu'elles ambitionnent de mettre en place ont parfois un résultat tout à fait différent de celui qui était créé, qui était envisagé au départ. Bon, et en particulier, quand on regarde la distance entre le projet initial et sa projection sur le terrain, on voit bien, on ne peut pas dire que la France a été le lieu de réalisation du projet vraiment prométhéen, totalisant, voire presque d'ailleurs totalitaire, de la Fondation Rockefeller, qui était vraiment de mobiliser l'ensemble des sciences, des savoirs scientifiques, sciences exactes et sciences sociales, pour donner naissance à un homme nouveau hein, et à une rationalisation de la vie. Donc là, on voit, quand on voit cette distance-là, à quel point précisément il est simpliste de raisonner en termes de diffusion d'un modèle américain qui, en plus, est en permanente reconstruction. Je poursuis ma conclusion rapidement d'abord sur l'ancrage de long terme, ça j'en ai parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Sur le fait que... je vais peut-être m'arrêter là parce qu'en fait ça va m'obliger un développement un petit peu long, puis du coup je vais manger sur les questions. Bon, juste quand même pour signaler que on a quand même dans le processus de restructuration de l'enseignement supérieur, en particulier après 45, on voit que l'action des fondations, et ça poursuit ce que je disais tout à l'heure, en particulier pour les sciences sociales, l'action des fondations ne prend pas forcément la forme d'une poussée vers le changement ou d'une modernisation, pour faire court, mais que précisément leur politique peut aboutir au renforcement des pesanteurs locales et non pas à leur élimination. Et c'est vrai que quand on regarde finalement dans ce qui se passe dans l'enseignement supérieur et la recherche après 45, on s'aperçoit que la mise en place par les pouvoirs publics d'une politique scientifique s'est faite largement dans l'entre-deux-guerres contre l'université, que ça se poursuit après 45 et que finalement l'intervention des fondations massives pour ces organismes extérieurs à l'université, la FNSP, le CNRS, la MSH, renforce finalement cet aspect-là. Et là aussi, on voit bien le simplisme du raisonnement en termes d'américanisation, parce qu'en fait, le projet fondamental des fondations philanthropiques, c'est de faire des universités le centre du système de recherche. Or, ce qu'elles font en France aboutit exactement à l'inverse. Donc là aussi, américanisation du système d'enseignement supérieur et de recherche par le biais de l'intervention des fondations, personnellement, je ne vois pas. En tout cas, ça se passe, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça peut paraître au premier abord. Et que donc finalement, et je terminerai là-dessus, loin de contrecarrer ce mouvement de marginalisation de l'université, dans lequel on est toujours actuellement d'ailleurs, la politique philanthropique l'a plutôt renforcée. Pardon. Donc je vais m'arrêter là. Merci.
C'était passionnant. Merci infiniment. Vous avez en plus un débit très admiratif de votre capacité à parler ainsi pendant une heure. C'est vrai, je vous le dis. C'était passionnant. Vraiment, on a appris énormément de choses. Je me posais la question par rapport au contenu du... Le fait que les philanthropes interviennent dans l'organisation d'institutions, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même peut-être une intervention sur le contenu de l'enseignement. Ça m'étonne.
Si. Oui. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr qu'elles ont des idées derrière la tête, ça c'est évident, mais comment dire, quand elles se trouvent face à des... Et on voit bien à travers les négociations très fortes qui se mettent en place avec les universitaires locaux. Quand elles ont face à elles des gens qui ont un projet, c'est le cas de Brodel et de Fèvre après 45, ça passe pas. Ça passe pas. Par contre, moi, comment dirais-je, là où il y a où il y a vraiment un rôle, à mon avis, très important des fondations, c'est dans l'organisation de la recherche elle-même. Où là, effectivement, elle contribue à promouvoir des nouveaux modèles d'organisation de la recherche qui sont, je veux dire, quand on regarde la façon dont ça s'organise dans l'entre-deux-guerres, que ça soit dans les sciences sociales ou les sciences biomédicales, on s'aperçoit que le mouvement de professionnalisation de la recherche, il s'engage de manière décisive, en grande partie grâce à l'action de la Rockefeller, enfin grâce ou à cause d'eux, enfin peu importe, du fait d'eux, parce qu'effectivement, elle a mis en place plus précocement que ça se fait en France des méthodes d'administration de la recherche qui sont en fait reprises au vol par les Perrin, les Borel, les Maillère, qui finalement se disent bah oui, c'est bien financé. La Caisse nationale des sciences, par exemple, l'idée du financement pluriannuel de la recherche, ça c'est pratiquement une invention Rockefeller. Je veux dire que en début des années 30, en fait, elle donne un financement en 1932 à l'Institut du Radium, un financement pour 10 ans. C'est une première en France. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Caisse nationale des sciences accorde des financements pour 3 ans, mais jamais plus. Donc l'idée de financer un chercheur professionnel qui ne fait que de la recherche, parce que les années 30, c'est ça. C'est le début de l'émergence du chercheur professionnel, bon, qui est un métier aujourd'hui auquel on est familier, dont on est familier, bon, qui est peut-être en voie de disparition, mais peu importe. Enfin, en tout cas, en voie d'assèchement pour ce qui concerne les crédits, mais et encore, c'est pas évident. Mais en tout cas, on assiste à l'émergence de cette figure-là. Or, l'idée de financer quelqu'un pour faire que de la recherche pendant X années, c'est pas du tout évident à l'époque. Et effectivement, une organisation comme la Rockefeller contribue largement à introduire cette idée-là que pour faire de la recherche, il faut du temps, etc. Et donc, il y a ces financements de long terme. Donc, je dirais, moi, pour tout ce qui concerne les méthodes d'administration de la recherche, il y a un rôle très important. Pour ce qui concerne le contenu, c'est beaucoup plus, d'abord, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Ensuite, encore une fois, quand il y a des gens qui ont un projet en face, ça passe pas. Et puis, par ailleurs, les discussions sont souvent tellement longues que c'est extrêmement difficile de distinguer ce qui vient des Américains et ce qui vient des universitaires français dans l'affaire. C'est pour ça, moi, par exemple, pour les sciences sociales, je parle de projets franco-rockefelleriens, parce qu'on voit bien comment des gens comme Célestin Bouglet, comme Charles Rist, comme Marcel Mauss, comme Sébastien Charletti négocient, discutent avec les gens de la Rockefeller pour savoir quels instituts financer, quels projets, etc. Et finalement, font évoluer leurs projets en même temps. Et les Américains évoluent aussi. Par exemple, ils n'envisagent pas du tout de financer des travaux concernant la colonisation. Or, il y a tout un développement de recherche dans les années 30 qui est un rameau de ce qu'on appelle la sociologie coloniale, qui est en gros toute une série de travaux qui consistent à comprendre comment fonctionne l'Empire, quels sont les changements qui sont intervenus dans l'Empire et comment finalement réformer l'Empire pour le garder. Tout ça, ça intéresse absolument pas les Américains qui, eux, n'ont pas du tout dans leur radar les empires coloniaux. Enfin, ils les ont par extension, mais je veux dire, ça ne les intéresse pas forcément de travailler vraiment là-dessus, dans la mesure où les États-Unis n'ont pas d'empire colonial à proprement parler, en tout cas pas de cette nature-là. Bon, mais voilà, les Français vont imposer ces travaux-là. Et à mon avis, non seulement c'est très difficile, mais précisément, je pense que c'est entre guillemets inutile, parce qu'il y a tellement de choses qui se font dans la circulation. Et par ailleurs, on n'est pas seulement dans un face-à-face franco-américain, parce qu'il faut voir une chose, c'est que les fondations, elles agissent dans le monde entier. Donc, les officeurs philanthropiques, quand ils mettent en place des projets, un jour, ils sont à Paris, le lendemain, ils vont à Londres, après, ils vont à Varsovie, ensuite, ils passent à Rome, etc. Donc, et chaque fois qu'ils rencontrent des gens, ils leur disent, mais tiens, les Polonais, ils font ça, et puis tiens, vous pourrez peut-être faire comme en Angleterre, etc. Donc, finalement, il y a une circulation de modèles qui est permanente. Et bon, ça, on la voit en particulier dans le modèle biomédical, hein, où, par exemple, le coût du modèle full-time, c'est-à-dire mélanger fonction de soins, fonction de recherche et fonction d'enseignement, qui est un modèle allemand, réexporté aux États-Unis par la Fondation Rockefeller et réexporté en France, adapté à la sauce américaine. Donc, je veux dire, c'est pas une importation américaine en France, c'est une réexportation, c'est une germanisation via les États-Unis. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans cette affaire-là, c'est que finalement, quand ce modèle-là il est proposé par l'Allemagne, il apparaît scandaleux aux universitaires français. Quand il est proposé par les Américains, ça paraît beaucoup mieux déjà. Mais on est après la guerre de 14-18, donc voilà, il y a l'ennemi héréditaire. Mais du coup, quand le projet est présenté avec des couleurs américaines, ça paraît moins gênant, quoi. Bon, ce qui n'empêche pas que ça capote d'ailleurs après dans l'immédiat en France. Mais enfin, tout ça pour dire que voilà, on a des circulations très complexes. Alors, j'ai pas trop développé ce point-là dans ma partie, disons, un peu épistémologique en introduction, mais non seulement je crois qu'il faut avoir une perspective circulatoire sur ces questions-là, mais une perspective complètement multilatérale. C'est-à-dire que là, on n'a pas une France qui est, je dirais, point d'arrivée d'une impulsion américaine, mais on a une France qui est traversée par des flux transnationaux extrêmement complexes et dans lesquels, voilà, à la fois, on n'a pas américanisation, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une influence très forte des fondations quand même.
Merci. Oui, une petite question, peut-être un peu truc. Je voudrais savoir qui étaient ces négociateurs américains, enfin, entre guillemets, les employés des fondations Rockefeller. Et deuxièmement, si dans l'ensemble français de la recherche, etc., il y avait des secteurs sanctuarisés dans lesquels les associations étrangères, en fait américaines, ne pouvaient pas entrer, par définition, parce qu'il y avait des... Parce qu'il y a, je sais pas, la recherche militaire, ou des trucs comme ça, enfin...
Oui, ça, certainement. Certainement. Alors, par contre, comme je ne connais pas du tout ce qui se fait dans ce secteur, je ne peux pas vous dire, mais ça me paraît évident qu'effectivement, elles n'y sont pas. Alors, sur la première question, c'est intéressant parce qu'en fait, les officers philanthropiques, qui sont des program officers, en fait, qu'en matière politique, on va traduire par officier, parce que ça fait un peu militaire, justement, donc il y a un peu impérialiste, etc. Mais les officers philanthropiques, c'est des gens extrêmement intéressants parce que, en particulier aux États-Unis, où finalement la philanthropie devient très vite un milieu important et où on fait carrière dans la philanthropie, les officiers philanthropiques sont souvent des universitaires qui entrent en philanthropie et puis qui finalement se disent que c'est très bien. Et donc finalement, c'est des gens qui passent leur temps à voyager. Et quand ils vont dans les pays, France, Angleterre, Allemagne, etc., je dirais qu'ils parlent de pair à pair avec les gens dont ils veulent financer les projets. Donc un physicien, donc du coup, ils sont entre collègues. Ce qui facilite aussi les contacts, parce qu'aussi, ils savent ce qui se passe dans les laboratoires, bon, ce qui n'est évidemment pas évident pour quelqu'un qui ne connaît rien ou qui est purement un administrateur. Or, les officiers ne sont pas purement des administrateurs. Ce sont des gens qui deviennent des professionnels de la philanthropie, mais qui, au départ, ont un background universitaire. Ils ont
bien payés, alors.
Alors, les salaires, je ne les connais pas, parce que je ne me suis pas intéressé à cette dimension. Mais certainement, ils sont assez bien payés. D'ailleurs, d'autant plus que je dirais que, dès 1918, le différentiel de richesse entre les États-Unis et l'Europe est énorme. Les Américains sont les banquiers du monde et que le taux de change, évidemment, entre le dollar et les monnaies européennes est énorme. Et donc, il y a effectivement les financements américains sont très importants. Hein. Effectivement, ils peuvent mettre plusieurs millions de dollars comme ça, comme rien. Donc, tout ça pour dire que les officiers sont effectivement des gens qui ont cette aptitude à établir des contacts parce que, précisément, ils ont le même habitus. Hein, que les universitaires locaux. Alors ça va changer un peu plus après 1945, où on va assister à un changement de profil professionnel. Alors il y aura toujours des universitaires, mais on va beaucoup plus avoir des gens qui vont faire des va-et-vient entre les fondations et puis l'administration fédérale américaine. Mais quand même, ils connaissent suffisamment ces choses-là, enfin pas tous, mais pour une partie d'entre eux, pour établir ces contacts. Mais ça, c'est vrai que c'est particulièrement net dans l'entre-deux-guerres.
Quels sont les intérêts attendus par ces fondations-là ? Qu'est-ce qu'elles attendent en retour ?
Ils n'attendent rien en retour. Ce qu'ils essayent de faire, encore une fois, c'est là où je dis à la fois ce projet universaliste et impérialiste, c'est à la fois considérer que les méthodes qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis sont les meilleures et doivent se diffuser ailleurs. Bon, simplement, toutes ces méthodes-là sont elles-mêmes des digestions de toute une série de choses qui sont piochées ailleurs. Parce que d'ailleurs, c'est une caractéristique des États-Unis qui ont une capacité à siphonner tout ce qui se fait de bien ou de mal, enfin peu importe, dans le monde. Parce qu'effectivement, et de ce point de vue-là, les fondations sont à la fois des vecteurs d'américanisation de l'Europe, mais elles sont aussi des vecteurs de mondialisation des États-Unis dans la mesure où cette politique qu'elles mènent de façon internationale, ça consiste pas seulement à aller apporter des modèles ailleurs, ça consiste aussi à aller chercher partout ce qui se fait de bien et donc à le réexporter dans leur... Et donc il y aurait tout un travail à mener qui n'a absolument pas été mené par les historiens de la philanthropie américains qui consisterait à effectivement voir en quoi les actions menées par la philanthropie aux États-Unis, qui constituent en fait la grande majorité de leurs actions, se nourrissent en permanence de ce qu'elles font à l'étranger. Ça, c'est très clair. Quand Bernsley Rummel, par exemple, qui est un des officiers philanthropiques du Laurence Spellman Rockefeller Memorial au début des années 20, quand il va commencer à faire le tour des capitales européennes pour voir qui financer, il fait aussi son marché dans les congrès pour voir un petit peu quelles sont les méthodes de sciences sociales qui sont mises en œuvre, etc. On est au moment où la sociologie américaine se constitue et où la Rockefeller cherche à savoir qui financer, comment, etc. Donc finalement, il y a un va-et-vient de tout ça. À coup sûr, j'en mettrais vraiment ma main à couper, même si je pense que c'est une étude qu'il faudrait faire, mais qui n'a pas été faite pour l'instant, tous ces apports-là qui sont vraiment réinvestis aux États-Unis même. Donc il y a à la fois il y a ces deux dimensions-là. Donc américanisé, mais aussi universalisé. Et puis donc l'idée de promouvoir des méthodes plus modernes, plus rationnelles, meilleures, tout ça avec un projet quand même global qui est aussi typiquement américain, qui est de mettre en place un monde fondé sur le triptyque paix, démocratie, économie de marché, en gros. Voilà. Donc c'est vrai que les fondations fonctionnent là-dessus, et c'est un triptyque qui va encore plus, je dirais, s'affirmer après 1945, où là, il y a vraiment, étant donné la situation de déséquilibre entre les États-Unis et le reste du monde, et en particulier l'Europe, je dirais, elle donne beaucoup plus libre cours à cette ambition-là. Sauf que, ça, c'est l'aspect général, sur le terrain, ça ne se passe pas toujours comme ça.
Voilà. Voilà, monsieur. Moi, en brève synthèse de tout ce que vous avez dit, je voudrais vous résumer de manière simpliste et dire que les fondations Ford, Rockefeller ou quelles qu'elles soient, ont colonisé le savoir à travers le monde et font du pillage. Vous avez dit qu'elles siphonnent un peu partout tout ce qui est nouveau, etc. Mais en fin de compte, c'est ça. Ils prennent sous couvert de philanthropisme le savoir qui produit par la recherche à travers la planète. On finance, je ne crois pas du tout au philanthropisme ou au bénévolat ou à la générosité, aux œuvres de bienfaisance au niveau politique et à ce niveau-là. Mais donc ce qu'ils font, c'est vraiment du pillage.
Alors d'abord, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je crois pas à l'action désintéressée gratuite. Simplement, c'est pas du tout exact ce que vous dites, dans la mesure où c'est précisément beaucoup trop simpliste. Et on voit bien que sur le terrain, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas du tout de colonisation intellectuelle de la part des États-Unis en France, par exemple. C'est bien ce que j'ai essayé de montrer pendant une heure. Donc, ou alors je me suis mal exprimé, ou vous n'avez pas compris. Mais sans doute, on est un peu responsable tous les deux.
Je n'ai pas compris, mais je le perçois comme ça.
Comment dirais-je ? Ce qui me paraît intéressant, moi, c'est que la dimension impérialiste dont vous parlez et la dimension universaliste sont présentes en même temps et indissociablement. Ça ne veut pas dire que l'une y est. Alors après, selon les périodes, selon les secteurs, etc., il y en a une qui peut l'emporter au détriment, jamais au détriment de l'autre, mais en tout cas, le rapport peut être s'équilibrer de façon différente. Interpréter l'action internationale des fondations en termes uniquement de colonisation, de pillage, etc., je m'excuse, mais c'est ne rien comprendre à l'action internationale. Qui est, encore une fois, cette dimension impérialiste, elle est tout à fait nette, mais on voit bien que sur le terrain, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'effectivement, les résultats sont loin d'être toujours ceux qui sont envisagés, et sans parler du fait qu'ils sont pas forcément envisagés non plus comme ça, dans la mesure où la coïncidence entre le projet des fondations et les projets du gouvernement américain ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, ils sont les mêmes, mais ils ne sont pas toujours les mêmes.
Mais non, ok.
Non, mais on peut discuter, aucun souci.
Dernière question.
Ça reprend peut-être un petit peu en nuançant ce que Madame disait juste à l'instant, mais je me demandais effectivement à quel moment on pouvait parler de philanthropie. C'est-à-dire, il y a des retombées positives dans l'implication américaine des fondations.
Je n'ai pas parlé de retombées positives, entendons-nous bien.
Il y a une osmose qui se fait.
Je n'ai pas parlé de retombées positives.
Et un échange. Est-ce que cette marche qui peut être c'est une reconstruction, c'est un genre de plan Marshall qui va quand même dans
Absolument.
Le sens c'est un plan de l'Europe. Mais dans la mesure où ça peut être perçu de façon positive comme cela, est-ce que ça suffit à parler de philanthropie en fait ?
Quand je dis philanthropie, pour moi le terme est neutre. philanthropie, c'est le phénomène philanthropique aux États-Unis. Point. Pour... Moi, j'ai jamais dit que c'était bien ou mal le phénomène philanthropique. Je m'en fous. Mais ce que je veux dire, je suis pas là comme porte-parole de la philanthropie. Je dis simplement que c'est un phénomène massif aux États-Unis. On peut avoir toutes les interprétations qu'on veut. Les fondations philanthropiques, elles s'appellent comme ça, sont un phénomène énorme aux États-Unis. Après, il y en a de toute taille. Il y en a 60 000 aujourd'hui. C'est énorme. Donc,
c'est un terme positif qui peut être opposé un petit peu à l'impérialisme. Enfin, dans les notions.
Mais bien sûr. Mais moi, je suis pas là en tant que défenseur du terme philanthropie.
Voilà, mais je pense que c'est perçu comme ça et que la réaction de.
Oui, mais parce que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que d'ailleurs une fois ça me rappelle, je discutais avec un collègue comme ça, et puis il me disait bah alors tiens sur quoi tu travailles en ce moment, enfin, c'était il y a un certain nombre d'années de ça, je dis bah tiens oui je travaille sur les fondations philanthropiques américaines, puis il me dit ah oui quoi ils sont philanthropes les Américains, ils sont philanthropes là je me marre, etc. C'est je veux dire que le phénomène de la philanthropie aux États-Unis est extrêmement important, on comprend pas la société américaine si on prend pas en compte ce phénomène là. Après le problème de savoir si on lui accorde une connotation positive ou négative, ça c'est complètement autre chose. Personnellement, moi c'est pas mon travail d'historien de savoir si c'est positif ou négatif. Donc je raisonne pas dans ces termes-là. Je raisonne dans les termes de d'abord je prends le terme comme il est, et puis j'essaie d'en analyser le fonctionnement, etc. Mais quand vous parlez de retombées positives, vous parlez sur qui ? Parce que j'ai pas parlé de retombées positives nulle part, moi.
Non, mais dans la mesure où c'est un plan de reconstruction, oui. dans la mesure où ça doit faire accéder à quelque chose de meilleur, c'est penser.
Dans l'esprit des Américains, oui, tout à fait.
C'est une évolution, oui. Mais de fait, le terme de philanthropie, puisque c'est là-dessus qu'est un petit peu le débat, le hiatus. Est-ce que vous pensez pas qu'à ce moment-là, vous utilisez un terme américain?
Bah, d'abord, il faut bien utiliser des termes. On peut effectivement passer beaucoup de temps à chercher un nouveau terme. La philanthropie, c'est un phénomène très important, encore une fois, c'est ce phénomène des associations privées. On n'est pas obligé, je veux dire que, en tant qu'historien, je suis parfaitement conscient du caractère construit des catégories qu'on utilise, qui sont effectivement en permanente reconstruction. Cela étant, bon, il faut bien, à un moment donné, nommer les choses. Moi, ce que je vois, c'est que ça me pose absolument aucun problème d'utiliser le terme philanthropie. Ça me pose aucun problème à partir du moment où, personnellement, c'est ce que j'ai dit au début, je crois qu'il est effectivement extrêmement important de se situer à mi-chemin de... Parce qu'en gros, l'historiographie de la philanthropie, qui est vraiment une industrie aux États-Unis, navigue entre deux interprétations. L'une qui est effectivement très... Très positive, comme vous dites, enfin, qui met l'accent sur la bienfaisance, le désintéressement des philanthropes, le fait qu'ils ont contribué à la modernisation de tas de choses à tas d'endroits, etc. Ça, c'est une première école, entre guillemets, une perspective libérale, disons, et puis une école gramscienne qui est hyper critique et qui considère les fondations comme des reproductrices de l'ordre capitaliste à l'intérieur des États-Unis et dans le monde. Chacune des deux écoles, d'ailleurs, a de solides arguments à faire valoir. La perspective critique en a d'ailleurs de plus solides. Mais dans chacune d'entre elles, il y a des interprétations extrêmement mécanistes. Hein. Et personnellement, je crois que ce qui est important, c'est de faire de l'histoire, de se maintenir à les gens qui travaillent dessus font de l'histoire, mais simplement, moi je trouve que il y a des choses intéressantes dans les deux, et que on peut pas, par exemple, on peut pas comprendre la projection internationale des États-Unis si on comprend pas le fait que c'est un pays qui a eu vocation très vite à incarner l'ensemble de l'humanité, peu importe que ça soit à tort ou à raison. Bien sûr, oui, j'ai dit messianisme, mais c'est ça, mais peu importe que ce soit à tort ou à raison, moi en tant qu'historien, j'ai pas à dire s'ils ont tort ou ils ont raison. Hein, j'analyse la formation de cet universalisme et la façon dont les fondations s'y intègrent et entendent y jouer leur rôle.
Mais voilà. Donc vous confirmez que le terme de philanthropie est nuancé à la base aux États-Unis dans la façon dont
il est utilisé. Bien sûr, mais il y a une historiographie hyper critique sur la philanthropie, beaucoup plus critique d'ailleurs que la plupart des historiens européens qui travaillent sur la philanthropie.
Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il soit perçu à la base comme quelque chose de positif et de...
Alors, oui, évidemment, ça c'est un malentendu, j'allais dire, moi j'en suis pas responsable, mais ce terme-là, si on me propose un autre terme, moi je veux bien, mais très franchement, je ne suis pas sûr que ça soit utile dans la mesure où il suffit d'être prudent sur la façon dont on utilise ces catégories, mais ça, n'importe quel historien se doit de l'être, avec n'importe quelle catégorie. Donc, ce n'est pas gênant en soi, je veux dire.
Merci.
Oui.
Donc, attendez, madame Oya, on enregistre.
Mais je n'ai jamais dit que la philanthropie, c'était bien, madame. C'est ça. C'est là où.
Dernière question et on arrête.
Oui. simplement pour aller dans votre sens et répondre à monsieur, il faut voir ce phénomène comme un phénomène culturel. Les Américains sont comme ça. Et pour illustrer, j'ai juste un chiffre. Aux États-Unis, il y a à peu près 300 milliards de dollars qui sont donnés au titre de la philanthropie. Sur ces 300 milliards de dollars, 75% viennent des particuliers et 13% des fondations. Et le reste sont les héritages. Ça veut dire que les particuliers, naturellement, spontanément, ils donnent dans la philanthropie.
Alors, ils donnent spontanément et ils donnent aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. D'ailleurs, les grands philanthropes le font aussi. Ils le font parce qu'il y a un fort sentiment anti-étatiste derrière. On donne spontanément, on donne parce qu'on veut que ça soit organisé par le privé et non pas par l'État. Donc on ne comprend pas la philanthropie américaine si on ne comprend pas tous ces capitaines d'industrie qui ont fait ces fondations ont mis en place tous ces programmes-là parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit l'État qui le fasse.
Et on se rend compte justement de la réaction qu'il y a eu par rapport à la nouvelle mesure qu'a voulu essayer de faire passer Obama à propos de la couverture sociale.
Oui, tout à fait.
Il y a quand même des réactions qu'on n'aurait pas en France.
Il y a quelque chose de très très fort aux États-Unis là-dessus et qui explique effectivement cette prégnance-là, qui est un petit peu difficile. C'est des logiques qui sont un peu difficiles à comprendre pour nous, au sens où d'abord le fonctionnement de ces fondations est parfois un peu exotique, parce que bon, c'est des organisations assez particulières. Et puis finalement, dans certains secteurs, elles jouent le rôle de ce qui se pourrait être des ministères, des administrations locales ou nationales, fédérales. Donc c'est un phénomène extrêmement complexe.
On va finir là-dessus malheureusement parce que vous avez un train à prendre. Merci beaucoup pour cette conférence qui a suscité des débats. Merci. Je vous remercie infiniment à tous. Bonsoir.